Phèdre de Jean Racine. Personnage. Thésée, fils d'Égée, roi d'Athènes. Phèdre, femme de Thésée, fille de Minos et de Pasiphaé. Hippolyte, fils de Thésée et d'Antiope, reine des Amazones. Aricie, princesse du sang royal d'Athènes. Théramène, gouverneur d'Hippolyte. Énon, nourrice et confidente de Phèdre. Ismène, confidente d'Aricie. Panope, femme de la suite de Phèdre. Garde. La scène est à Trézène, ville du Péloponnèse. Acte premier. Scène première. Hippolyte, Théramène. Hippolyte. Le dessein en est pris. Je pars, cher Théramène, et quitte le séjour de l'aimable Trézène. Dans le doute mortel dont je suis agité, je commence à rougir de mon oisiveté. Depuis plus de 6 mois, éloigné de mon père, j'ignore le destin d'une tête si chère. J'ignore jusqu'au lieu qui le peuvent cacher. Théramène. Et dans quel lieu, Seigneur, l'allez-vous donc chercher ? Déjà, pour satisfaire à votre juste crainte, j'ai couru les 2 mers que séparent Corinthe. J'ai demandé Thésée au peuple de ses bords où l'on voit l'Achéron se perdre chez les morts. J'ai visité les Lydes et, laissant le Thénard, passé jusqu'à la mer qui vit tomber Icare. Sur quel espoir nouveau, dans quels heureux climats, croyez-vous découvrir la trace de ses pas ? Qui sait même, qui sait si le roi votre père veut que de son absence on sache le mystère ? Et si, lorsqu'avec vous nous tremblons pour ses jours, tranquilles et nous cachant de nouvelles amours, ce héros n'attend point qu'une amante abusée ? Cher Théramène, arrête et respecte Thésée. De ses jeunes erreurs désormais revenues, par un indigne obstacle il n'est point retenu. Et fixant de ses vœux l'inconstance fatale, Phèdre depuis longtemps ne craint plus de rival. Enfin, en le cherchant, je suivrai mon devoir, et je fuirai ces lieux que je n'ose plus voir. Et depuis quand, Seigneur, craignez-vous la présence de ces paisibles lieux si chers à votre enfance, et dont je vous ai vu préférer le séjour au tumulte pompeux d'Athènes et de la cour ? Quel péril, ou plutôt, quel chagrin vous en chasse ? Cet heureux temps n'est plus, tout a changé de face, depuis que sur ses bords les dieux ont envoyé la fille de Minos et de Pasiphaé. J'entends, de vos douleurs la cause méconnue. Phèdre ici vous chagrine et blesse votre vue. Dangereuse marâtre, à peine elle vous vit que votre exil d'abord signala son crédit. Mais sa haine, sur vous autrefois attachée, ou s'est évanouie, ou bien s'est relâchée. Et d'ailleurs, quel péril vous peut faire courir une femme mourante et qui cherche à mourir ? Phèdre, atteinte d'un mal qu'elle s'obstine à taire, lasse enfin d'elle-même et du jour qui l'éclaire, peut-elle contre vous former quelque dessein ? Sa vaine inimitié n'est pas ce que je crains. Hippolyte, en partant, fuit une autre ennemie. Je fuis, je l'avouerai, cette jeune Aricie, reste d'un sang fatal conjuré contre nous. Quoi, vous-même, Seigneur, la persécutez-vous ? Jamais l'aimable sœur des cruelles Palantides trempa-t-elle au complot de ses frères perfides ? Et devez-vous haïr ces innocents appas ? Si je la haïssais, je ne la fuirais pas. Seigneur, m'est-il permis d'expliquer votre fuite ? Pourriez-vous n'être plus ce superbe Hippolyte, implacable ennemi des amoureuses lois et d'un joug que Thésée a subi tant de fois ? Vénus, par votre orgueil si longtemps méprisée, voudrait-elle à la fin justifier Thésée ? Et vous mettant au rang du reste des mortels, vous a-t-elle forcé d'encenser ses autels ? Aimeriez-vous, Seigneur ? Ami, qu'oses-tu dire ? Toi qui connais mon cœur depuis que je respire, des sentiments d'un cœur si fier, si dédaigneux, peux-tu me demander le désaveu honteux? C'est peu qu'avec son lait une mère amazone m'a fait sucer encore cet orgueil qui t'étonne. Dans un âge plus mûr, moi-même parvenu, je me suis applaudi quand je me suis connu. Attaché près de moi par un zèle sincère, tu me contais alors l'histoire de mon père. Tu sais combien mon âme, attentive à ta voix, s'échauffait au récit de ses nobles exploits, quand tu me dépeignais ce héros intrépide, consolant les mortels de l'absence d'Alcide, les monstres étouffés et les brigands punis, Procruste, Cercillon, et Siron et Sinice, et les eaux dispersées du géant d'Épidaure, et la crête fumant du sang du Minotaure. Mais quand tu récitais des faits moins glorieux, sa foi partout offerte et reçue en cent lieux, Hélène, à ses parents dans Sparte dérobée, Salamine témoin des pleurs de Péribée, tant d'autres dont les noms lui sont même échappés, trop crédules esprits que sa flamme a trompés, Ariane, au rocher comptant ses injustices, Phèdre, enlevé enfin sous de meilleurs auspices. Tu sais comme, à regret écoutant ce discours, je te pressais souvent d'en abréger le cours. Heureux, si j'avais pu ravir à la mémoire cette indigne moitié d'une si belle histoire. Et moi-même, à mon tour, je me verrais lié, et les dieux jusque-là m'auraient humilié, dans mes lâches soupirs d'autant plus méprisables qu'un long amas d'honneur en taisait excusable, qu'aucun monstre par moi dompté jusqu'aujourd'hui ne m'ont acquis le droit de faillir comme lui. Quand même ma fierté pourrait s'être adoucie, aurais-je pour vainqueur dû choisir Aricy? Ne souviendrait-il plus à mes sens égarés de l'obstacle éternel qui nous a séparés? Mon père la réprouve, et par des lois sévères, il défend de donner des neveux à ses frères. D'une tige coupable, il craint un rejeton. Il veut avec la sœur ensevelir leur nom. Et que, jusqu'au tombeau, soumise à sa tutelle, jamais les feux d'hymen ne s'allument pour elle. Dois-je épouser ses droits contre un père irrité? Donnerai-je l'exemple à la témérité? Et dans un fol amour ma jeunesse embarquée? Ah, Seigneur, si votre heure est une fois marquée, le ciel de nos raisons ne sait point s'informer. Thésée ouvre vos yeux en voulant les fermer. Et sa haine, irritant une flamme rebelle, prête à son ennemi une grâce nouvelle. Enfin, d'un chaste amour, pourquoi vous effrayer? S'il a quelque douceur, n'osez-vous l'essayer? En croirez-vous toujours un farouche scrupule? Craint-on de s'égarer sur les traces d'Hercule? Quel courage Vénus n'a-t-elle pas dompté? Vous-même, où seriez-vous, vous qui la combattez, si toujours Antiope, à ses lois opposées, d'une pudique ardeur n'eût brûlé pour Thésée? Mais que sert d'affecter un superbe discours? Avouez-le, tout change, et depuis quelques jours, on vous voit moins souvent, orgueilleuse et sauvage, tantôt faire voler un char sur le rivage, tantôt, savant dans l'art par Neptune inventé, rendre docile au frein un coursier indompté. Les forêts de nos cris moins souvent retentissent. Chargés d'un feu secret, vos yeux s'appesantissent. Il n'en faut point douter. Vous aimez, vous brûlez. Vous périssez d'un mal que vous dissimulez. La charmante Aricy a-t-elle su vous plaire? Théramène, je pars et vais chercher mon père. Ne verrez-vous point Phèdre avant que de partir, Seigneur? C'est mon dessein. Tu peux l'en avertir. Voyons-la, puisqu'ainsi mon devoir me l'ordonne. Mais quel nouveau malheur trouble sa chère Énone? Scène 2. Hippolyte, Énone, Théramène. Énone.
Hélas, Seigneur, quel trouble au mien peut être égal! La reine touche presque à son terme fatal. En vain, à l'observer jour et nuit, je m'attache. Elle meurt dans mes bras d'un mal qu'elle me cache. Un désordre éternel règne dans son esprit, son chagrin inquiet l'arrache de son lit. Elle veut voir le jour, et sa douleur profonde m'ordonne toutefois d'écarter tout le monde. Elle vient.
Il suffit, je la laisse en ces lieux et ne lui montre point un visage odieux.
Scène 3. Phèdre et Non. Phèdre. N'allons point plus avant. Demeurons, chère Enon. Je ne me soutiens plus. Ma force m'abandonne. Mes yeux sont éblouis du jour que je revois, et mes genoux tremblants se dérobent sous moi. Hélas!
Elle s'assied.
Dieu tout-puissant, que nos pleurs vous apaisent! Que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent! Quelle importune main, en formant tous ces nœuds, a pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux? Tout m'afflige et me nuit, et conspire à me nuire. Comme on voit tous ces vœux l'un l'autre se détruire! Vous-même, condamnant vos injustes desseins, tantôt à vous parer vous excitiez nos mains. Vous-même, rappelant votre force première, vous vouliez vous montrer et revoir la lumière. Vous la voyez, madame, et prête à vous cacher, vous haïssez le jour que vous veniez chercher. Noble et brillant auteur d'une triste famille, toi, dont ma mère osait se vanter d'être fille, qui peut-être rougit du trouble où tu me vois, soleil, je te viens voir pour la dernière fois. Quoi, vous ne perdrez point cette cruelle envie? Vous verrai-je toujours, renonçant à la vie, faire de votre mort les funestes apprêts? Dieu! Que ne suis-je assise à l'ombre des forêts? Quand pourrais-je, au travers d'une noble poussière, suivre de l'œil un char fuyant dans la carrière?
Quoi, madame?
Insensé! Où suis-je? Et qu'ai-je dit? Où laissais-je égarer mes vœux et mon esprit? Je l'ai perdu. Les dieux m'en ont ravi l'usage. Enon, la rougeur me couvre le visage. Je te laisse trop voir mes honteuses douleurs, et mes yeux, malgré moi, se remplissent de pleurs. Ah, s'il vous faut rougir, rougissez d'un silence qui, de vos mots encore, aigrit la violence. Rebelle à tous nos soins, sourde à tous nos discours, voulez-vous sans pitié laisser finir vos jours? Quelle fureur les borne au milieu de leur course? Quel charme ou quel poison en a tari la source? Les ombres par trois fois ont obscurci les cieux depuis que le sommeil n'est entré dans vos yeux. Et le jour a trois fois chassé la nuit obscure depuis que votre corps languit sans nourriture. À quel affreux dessein vous laissez-vous tenter? De quel droit sur vous-même osez-vous attenter? Vous offensez les dieux, auteurs de votre vie. Vous trahissez l'époux à qui la foi vous lie. Vous trahissez enfin vos enfants malheureux que vous précipitez sous un joug rigoureux. Songez qu'un même jour leur ravira leur mère et rendra l'espérance aux fils de l'étrangère, à ce fier ennemi de vous, de votre sang, ce fils qu'une Amazone a porté dans son flanc, cet Hippolyte. Ah, Dieu! Ce reproche vous touche? Malheureuse, quel nom est sorti de ta bouche? Eh bien, votre colère éclate avec raison. J'aime à vous voir frémir à ce funeste nom. Vivez donc, que l'amour, le devoir vous excite. Vivez, Ne souffrez pas que le fils d'une scythe, accablant vos enfants d'un empire odieux, commande au plus beau sang de la Grèce et des dieux. Mais ne différez point, chaque moment vous tue. Réparez promptement votre force abattue, tandis que, de vos jours prêts à se consumer, le flambeau dure encore et peut se rallumer. J'en ai trop prolongé la coupable durée. Quoi, de quelques remords êtes-vous déchirés? Quel crime a pu produire un trouble si pressant? Vos mains n'ont point trempé dans le sang innocent. Grâces au ciel, mes mains ne sont point criminelles. Plût au Dieu que mon cœur fût innocent comme elle. Et quel affreux projet avez-vous enfanté, dont votre cœur encore doit être épouvanté? Je t'en ai dit assez, épargne-moi le reste. Je meurs pour ne point faire un aveu si funeste. Mourez donc et gardez un silence inhumain, mais pour fermer vos yeux, cherchez une autre main. Quoiqu'il vous reste à peine une faible lumière, mon âme chez les morts descendra la première. Mille chemins ouverts y conduisent toujours, et ma juste douleur choisira les plus courts. Cruel, quand ma foi vous a-t-elle déçu? Songez-vous qu'en naissant mes bras vous ont reçu. Mon pays, mes enfants, pour vous j'ai tout quitté. Réserviez-vous ce prix à ma fidélité? Quel fruit espères-tu de tant de violence? Tu frémiras d'horreur si je romps le silence. Et que me direz-vous qui ne cède, grand Dieu, à l'horreur de vous voir expirer à mes yeux? Quand tu sauras mon crime et le sort qui m'accable, je n'en mourrai pas moins, j'en mourrai plus coupable. Madame, au nom des pleurs que pour vous j'ai versés, par vos faibles genoux que je tiens embrassés, délivrez mon esprit de ce funeste doute. Tu le veux? Lève-toi. Parlez, je vous écoute. Ciel, que vais-je lui dire? Et par où commencer? Par de vaines frayeurs, cessez de m'offenser. Ô haine de Vénus, ô fatale colère, dans quels égarements l'amour jeta ma mère. Oublions-les, madame, et qu'à tout l'avenir, un silence éternel cache ce souvenir. Ariane, ma sœur, de quel amour blessé vous mourûtes aux bords où vous fûtes laissée. Que faites-vous, madame, et quel mortel ennui contre tout votre sang vous anime aujourd'hui? Puisque Vénus le veut, de ce sang déplorable, je péris la dernière et la plus misérable. Aimez-vous? De l'amour, j'ai toutes les fureurs. Pour qui? Tu vas ouïr le comble des horreurs. J'aime. À ce nom fatal, je tremble, je frissonne. J'aime. Qui? Tu connais ce fils de l'Amazone, ce prince si longtemps par moi-même opprimé? Hippolyte, grand Dieu, c'est toi qui l'as nommé. Juste ciel, tout mon sang dans mes veines se glace. Ô désespoir, ô crime, ô déplorable race, voyage infortuné, rivage malheureux, fallait-il approcher de tes bords dangereux? Mon mal vient de plus loin. À peine au fils d'Égée, sous les lois de l'hymen, je m'étais engagé. Mon repos, mon bonheur semblait être affermi. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis, je rougis,
Je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus. Je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étrancir et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, d'un sang qu'elle poursuit, tourments inévitables. Par des vœux assidus, je crus les détourner, je lui bâtis un temple et pris soin de leur nez. De victimes, moi-même, à toute heure entourée, je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée. D'un incurable amour, remèdes impuissants, en vain sur les autels ma main brûlait l'encens. Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais Hippolyte, et le voyant sans cesse, même au pied des autels que je faisais fumer, j'offrais tout à ce dieu que je n'osais nommer. Je l'évitais partout. Ô comble de misère! Mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père. Contre moi-même, enfin, j'osais me révolter. J'excitais mon courage à le persécuter. Pour bannir l'ennemi dont j'étais idolâtre, j'affectais les chagrins d'une injuste marâtre. Je pressais son exil, et mes cris éternels l'arrachèrent du sein et des bras paternels. Je respirais, Hénon. Et depuis son absence, mes jours moins agités coulaient dans l'innocence. Soumise à mon époux et cachant mes ennuis, de son fatal hymen je cultivais les fruits. Vaine précaution, cruelle destinée, par mon époux lui-même à Trézène amené, j'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné. Ma blessure trop vive, aussitôt assaignée, ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachées, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée. J'ai conçu pour mon crime une juste terreur, j'ai pris la vie en haine et ma flamme en horreur. Je voulais en mourant prendre soin de ma gloire et dérober au jour une flamme si noire. Je n'ai pu soutenir tes larmes, tes combats. Je t'ai tout avoué. Je ne m'en repens pas. Pourvu que, de ma mort respectant les approches, tu ne m'affliges plus par d'injustes reproches, et que tes vains secours cessent de rappeler un reste de chaleur tout prêt à s'exhaler. Scène 4. Phèdre, Hénon, Panope. Panope. Je voudrais vous cacher une triste nouvelle, madame, mais il faut que je vous la révèle. La mort vous a ravi votre invincible époux, et ce malheur n'est plus ignoré que de vous. Hénon. Panope, que dis-tu ? Panope. Que la reine abusée en vain demande au ciel le retour de Thésée, et que, par des vaisseaux arrivés dans le port, Hippolyte, son fils, vient d'apprendre sa mort. Phèdre. Ciel ! Panope. Pour le choix d'un maître, Athènes se partage. Au prince, votre fils, l'un donne son suffrage, madame, et de l'État, l'autre, oubliant les lois, au fils de l'étrangère ose donner sa voix. On dit même qu'au trône, une brigue insolente veut placer Aricie et le sang de Palante. J'ai cru de ce péril devoir vous avertir. Déjà même Hippolyte est tout prêt à partir. Et l'on craint, s'il paraît dans ce nouvel orage, qu'il n'entraîne après lui tout un peuple volage. Hénon. Panope, c'est assez. La reine qui t'entend ne négligera point cet avis important. Scène 5. Phèdre, Hénon. Hénon. Madame, je cessais de vous presser de vivre. Déjà même au tombeau, je songeais à vous suivre. Pour vous en détourner, je n'avais plus de voix. Mais ce nouveau malheur vous prescrit d'autres lois. Votre fortune change et prend une autre face. Le roi n'est plus, madame, il faut prendre sa place. Sa mort vous laisse un fils à qui vous vous devez, esclave s'il vous perd et roi si vous vivez. Sur qui, dans son malheur, voulez-vous qu'il s'appuie? Ses larmes n'auront plus de mains qui les essuient, et ses cris innocents, portés jusque aux dieux, iront contre sa mère irriter ses aïeux. Vivez, vous n'avez plus de reproches à vous faire, votre flamme devient une flamme ordinaire. Thésée, en expirant, vient de rompre les nœuds qui faisaient tout le crime et l'horreur de vos feux. Hippolyte, pour vous, devient moins redoutable, et vous pouvez le voir sans vous rendre coupable. Peut-être, convaincu de votre aversion, il va donner un chef à la sédition. Détrompez son erreur, fléchissez son courage, roi de ses bords heureux, Trézène et son partage. Mais il sait que les lois donnent à votre fils les superbes remparts que Minerve a bâtis. Vous avez l'un et l'autre une juste ennemie. Unissez-vous tous deux pour combattre Aricie. Eh bien, à tes conseils je me laisse entraîner. Vivons, si vers la vie on peut me ramener. Et si l'amour d'un fils, en ce moment funeste, de mes faibles esprits peut ranimer le reste.